Bonjour, je suis Olivier Aymon. Bien, ce voyage vers Mars s'achève. Dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle Odyssée, on a compris que le trajet pour un équipage humain serait long, éprouvant, mais faisable. Alors maintenant on y va, on y est. Et on y fait quoi? Ah oui, au fait, Mars pour vous?
Ah, la relation avec Mars, c'est une relation d'infini, de découverte de l'inconnu, d'attrait pour des espaces nouveaux qui peuvent aussi nous apprendre d'où est-ce qu'on vient, quelle est notre place dans l'univers et comment on est arrivé sur Terre. Je m'appelle Aline de Cady, je travaille à l'Agence spatiale européenne, ingénieure fusée sur Ariane 6. En complément de ça, je travaille à l'association Planète Mars et je suis responsable communication. Et dans ce cadre, on fait pas mal de conférences, de projets étudiants. Et on essaye d'expliquer de façon très simple ces concepts techniques au grand public, de façon à rendre Mars accessible à tous.
Mars, la nouvelle Odyssée, épisode 7, on y est.
Alors si on veut faire un petit peu le tour de ce qu'on aurait besoin ou avec quoi on arriverait sur Mars et donc quelles sont les technologies dont on aurait besoin, imaginons-nous, on arrive sur Mars, donc on a notre module, celui avec lequel on est arrivé, donc notre vaisseau, qui va certainement dans les premières missions nous servir d'habitat et de base opérationnelle en même temps. On a des combinaisons spatiales, des combinaisons un pour chaque astronaute, donc là jusque-là, c'est un petit peu le basique qui va nous permettre donc d'aller faire des sorties extravéhiculaires sur la surface martienne. On aura quoi ? On aura des objectifs de mission qui nous auront été donnés par la Terre. C'est quoi ? C'est 500 jours hein, de mission, 18 mois. Et les besoins primordiaux pour la survie sur Mars, ça va être de reproduire une petite sphère terrestre qui soit compatible finalement de la vie de l'homme sur Mars. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme il a besoin d'eau, il a besoin d'oxygène, il a besoin de conditions de vie en tant que de température et de pression qui lui soient compatibles. Et puis il aura à gérer ce qu'on peut voir ici sur les panneaux, c'est-à-dire les aléas, la poussière, le sable, éventuellement des bactéries.
Et puis quand même des rayonnements qui lui arrivent dessus.
Et des rayonnements.
Rayonnements cosmiques ou radiations qui sont quand même très dangereuses.
Exactement. Donc si on prend par exemple le cas de l'eau, il est effectivement inenvisageable d'emmener avec cette mission la quantité d'eau qui serait nécessaire pour rester les 18 mois, plus en fait en tout 2 ans et demi, parce que ça sera...
Parce que pour vous la première mission, c'est pas genre une mission Apollo, on y va, on se pose, on fait un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité et on repart.
Eh bien, j'imagine pas du tout ça comme ça, puisque en fait, il faut rester sur place 18 mois, parce que c'est la meilleure conjonction qu'on a pour avoir une distance, une trajectoire,
on va dire, Mars. Un vol retour qui soit pas trop long, on va dire.
Qui soit pas trop long.
D'accord.
Et qui soit efficace, on va dire, en termes d'utilisation d'ergol. Donc, on va devoir rester 18 mois.
Le carburant, l'ergol.
Oui, le carburant. Donc, ça va pas être possible de juste se poser et de repartir. Donc il va falloir arriver avec une certaine infrastructure qui permette de générer ça. Aujourd'hui, pour le cas de l'eau, dans la Station Spatiale Internationale, on sait recycler 95% de notre respiration. On sait aussi recycler l'eau des urines, des déchets. Donc c'est une technologie qu'on maîtrise et qu'on pourra réutiliser sur Mars.
Donc on a de l'eau, on a de la nourriture. Alors, il faut l'emporter. Parce que là aussi.
Pour avoir de la nourriture, il va nous falloir de l'oxygène et de l'eau évidemment. L'air aujourd'hui sur Terre qu'on respire, il a 20% d'oxygène et puis il est à une pression de 0,2 bar. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est se doter d'une capacité d'extraction de l'oxygène qui est dans le gaz carbonique de l'atmosphère martienne. Et donc de mettre en place cette infrastructure-là pour
CO2,
pouvoir...
CO2, donc il y a le CO2.
Voilà, le CO2, donc il va pouvoir être décomposé en CO plus O2, et donc l'oxygène qui nous sera nécessaire. On étudie aussi, et ça c'est dans le cadre de projets à l'ESA par exemple, avec le projet Mélissa, des algues qui sont capables de générer de l'oxygène. Donc ça aussi, c'est une technologie qui pourra être mise à disposition et qui, en plus, a le pour bénéfice de pouvoir faire de la nourriture.
On emmène la nourriture, justement. On emmène quoi ? On emmène des petites graines et puis on plante. En 18 mois, ça a le temps de pousser.
Exactement. Alors, on va les choisir pour qu'elles soient les plus efficaces. Typiquement, la marante rouge, elle pousse de façon assez, assez rapide. Il lui faut 3 semaines.
Juste la marante rouge pour les auditeurs.
C'est une sorte de petite salade toute simple, mais qui est goûtue. Alors, c'est un petit détail, mais pouvoir manger frais, autre chose que des produits lyophilisés, ça sera quand même génial. Et donc, c'est bien si c'est un petit peu...
Parce que pendant le voyage, l'équipage risque de manger beaucoup de choses en tube.
Principalement en tube.
Donc, ça fera du bien une petite salade à l'arrivée.
Oui, et ça donne un peu cette idée de...
C'est la salade d'accueil, il y a des restaurants qui faisaient ça.
Il y aura un petit peu de vert dans ce monde hostile.
Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est Seul sur Mars, le film avec Mark Wahlberg.
Alors, sauf que les pommes de terre, c'est peut-être pas l'idéal.
D'accord. Mais alors, si on reprend d'ailleurs l'analogie, l'habitat, c'est un vaisseau qui peut-être se déploie en partie, parce que 18 mois, si on est, je sais pas, 4, 6, 8 à bord, il faut quand même un peu d'espace pour tenir le coup.
Oui, effectivement, l'habitat, on aura certainement, c'est une possibilité en tout cas, soit on arrive avec juste l'habitat, le module dans lequel on était pour la mission, soit on a l'opportunité d'avoir envoyé des modules cargo sans équipage dans des missions précédentes. Ouais. De façon à ce que quand l'équipage arrive, il ait peut-être un module cargo qui l'attend avec des extensions de son habitat. Et puis par la suite, ben ça c'est pas pour tout de suite, mais lorsque l'on va parler habitat et radiation, on fera certainement en sorte d'avoir une partie des infrastructures habitables sous terre en utilisant peut-être...
Pour se protéger des radiations.
Pour se protéger des radiations, avec l'utilisation des tubes de lave qui existaient par le passé et qui ont donc laisser des espaces souterrains qui sont...
Comme des tranchées
Des tranchées, oui, tout à fait. D'accord. C'est aussi un petit peu le cas de l'énergie, parce que quand on va avoir besoin d'énergie pour faire fonctionner le matériel, la base opérationnelle. Et donc, on pense vraiment envoyer des infrastructures en amont, avec des missions cargo uniquement, qui permettent de donner des réserves d'énergie. Alors, il y a des projets qui existent, comme le projet Mars Direct, qui prévoit, en termes d'énergie, d'avoir une petite centrale à fission nucléaire à la base qui permet de mettre en place tout le processus d'extraction des minéraux et des éléments comme l'oxygène et la transformation de l'hydrogène avec le gaz carbonique pour en faire du méthane.
Petite centrale nucléaire, c'est, rappelons-le, c'est ce qui est à bord des rovers aujourd'hui. Hein,
oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut quelque chose d'assez bien pensé pour pouvoir au moins permettre 2 voire 3 missions sur le terrain, 2 ou 3 missions de 2 ans et demi chacune. Mais on pourrait tout à fait imaginer avoir une infrastructure cargo, une mission cargo qui est, dans un premier temps, envoyer ces éléments-là et qui permettent à l'équipage de s'installer, d'installer sa mission, son architecture, avant de pouvoir se lancer dans ses expérimentations.
Tout ça, en fait, ça revient à ce qu'on a fait, par exemple, sur l'ISS, d'une certaine manière. On a assemblé des modules, donc c'est un peu ces vaisseaux cargo. On a envoyé de quoi se nourrir, on sait faire de l'eau, etc. Globalement, ça ressemble à ça. Il y a une petite différence, c'est que la station spatiale, elle est à 400 km de la Terre. Si on a vraiment un gros problème, on se réfugie dans le cargo de secours et puis on redescend. Quand on est sur Mars, ça ne se passe pas comme ça. On est en autonomie et en autarcie totale, et on ne peut compter que sur soi-même. Ça change quand même un petit peu la donne.
Ça change complètement la donne, et ça change même le rôle qui va se mettre en place entre la Terre, le centre de contrôle sur Terre, et puis l'équipage sur Mars. On n'aura pas un mode de communication ou d'interaction qui soit du type Apollo. Donc il faut imaginer, on est sur Mars, on veut envoyer un message sur Terre. Ce message, donc c'est des ondes radio, il va mettre jusqu'à 20 minutes pour arriver sur Terre. Ensuite, on répond, on analyse, on regarde. Et puis, cette réponse-là, elle remet encore jusqu'à 20 minutes pour revenir sur Mars. S'il y a une grosse urgence, ça ne sera pas possible de discuter. Et puis même, en fait, il faut même se dire que dans le cas pire, dans le cas où la Terre et Mars sont en conjonction, donc de chaque côté, côté opposé du Soleil,
le Soleil
va émettre des interférences telles que la communication sera impossible. Donc dans tous les cas, on est dans un contexte où la communication directe est impossible. On sera toujours en différé. Donc à partir de ce moment-là, le rôle de la Terre ou du centre de contrôle qui est sur Terre va être un rôle qui sera plutôt de conseiller, de gestion de projet, dans le sens où c'est eux qui vont définir les missions qui sont à faire, les expériences qui sont à dérouler. C'est évidemment eux qui vont analyser les résultats qui seront fournis en temps masqué, si je puis dire, et qui permettront de reboucler avec tous les laboratoires de recherche, les organismes qui mettent en place les expériences à dérouler. Donc c'est eux qui vont quelque part définir le planning de l'équipage en disant voilà, on va refaire tel déroulement d'expérience sur le terrain dans ces conditions-là à tel moment pour pouvoir voir si vraiment il y a des différences par rapport à ce qu'on s'attendait. Mais en tout cas, ils n'auront pas la capacité d'agir au moment où il y aura des décisions primordiales à prendre en temps réel. Donc l'équipage, en plus d'assurer sa propre survie, il aura à gérer lui-même les aléas et à faire preuve d'une certaine créativité justement pour gérer
comme
les inconnus.
Hein. Comme c'est une belle façon de dire, faites ce que vous pouvez, de toute façon on ne sera pas là pour vous aider. Globalement. Quand je vous écoute, ça veut dire que le premier objectif d'aller sur Mars, au-delà de la réalisation en tant que telle, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, au sens premier du terme, c'est de faire de la science.
C'est certainement de faire de la science et de découvrir les secrets de la planète rouge.
Ça va jusqu'à l'idée d'une colonisation, dans le sens on va s'installer. C'est pas de ça dont on parle pour l'instant.
Non.
On est vraiment dans l'idée d'une mission telle qu'on l'a connue pour la Lune. Ou est-ce que pour réaliser tout ça sur Mars, on fait une grande répétition sur la Lune ?
Alors les avis divergent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des procédures opérationnelles que l'on aura besoin de répéter et qu'on aura même besoin de mettre en œuvre une première fois dans un environnement qui est, on va dire, hostile, qui est représentatif des conditions psychologiques auxquelles l'équipage aura à faire face, c'est-à-dire l'isolement, le confinement, le stress, la gestion en vrai d'un environnement hostile dans lequel on peut mourir. Et ça, dans ce cadre, faire une mission lunaire permet de préparer la mission. C'est pas la même chose quand on est sur Terre, qu'on fait une mission dans un environnement martien, dans un désert ou dans l'Antarctique, et qu'on a quand même un backup. D'un point de vue stress, on ne sait pas se préparer au fait qu'on va mourir si on est en toute sécurité avec 40 personnes qui sont à moins d'un kilomètre.
On sait qu'on a une issue de secours.
On a une issue de secours.
Donc peut-être cette étape lunaire, et puis donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on arrive sur Mars. Au début, c'est pour faire de la science. Est-ce qu'on va jusqu'à déjà imaginer une installation, une pérennisation de la présence humaine ?
Je pense que dès le départ, il faudra avoir une vision un petit peu plus long terme. Typiquement, on parlait d'avoir une centrale d'énergie, d'avoir la capacité d'extraire l'oxygène de la glace et puis le méthane, le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Pour pouvoir faire tout ça, si on ne se dote pas dès le départ d'un système et d'un processus qui met en place tout ça, on ne pourra pas s'installer. Donc soit on le pense un petit peu plus long terme, et on n'aura pas le choix parce que de toute façon on n'a pas l'eau qui nous sera nécessaire, donc il faudra mettre en place un minimum. Et donc pourquoi pas dès le départ penser à mettre en place tous ces éléments en parallèle et avoir tous les deux ans et demi un équipage qui arrive et qui relaye un petit peu comme on fait dans la Station Spatiale Internationale, des équipages qui se relaient à chaque mission et qui continuent ce que l'équipage précédent a mis en place.
Et ça, vous l'imaginez à quelle échelle de temps ?
Je dirais peut-être une 5 ou 10 ans après le premier équipage.
Donc ça veut dire quelque chose comme 2050, c'est faisable ?
Ouais.
2050, quelques privilégiés quand même qui se retrouvent sur Mars. 2100, 2150, on imagine beaucoup plus de gens avec d'autres questions qui se posent. Comment on organise une nouvelle société ? Comment, qui gère ? Qui décide ?
Oui, les familles aussi. Les couples, comment on vit Est-ce qu'il y aura des enfants qui naîtront directement sur Mars?
Donc la science rejoint la science-fiction.
Ouais.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci à vous, Lynne de Cady. Et merci à vous d'avoir partagé ce voyage vers Mars avec nos équipiers scientifiques. Et n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel la nuit, de temps en temps. Elle sera peut-être là, petit point lumineux, légèrement rougeoyant. Mars, la nouvelle odyssée, un podcast original proposé par France Info.